Bonjour à tous. Beaucoup d'émotions pour nous, en tout cas ce matin, et pour moi en particulier. Revoir beaucoup de personnes que j'aime et beaucoup de personnes que je ne connais pas, mais je vous aime aussi, ne vous inquiétez pas. Et du coup, Jean-Marc m'a demandé de donner un peu des nouvelles des Brandt. Et avant que je commence, oui, je vais avoir un accent bizarre parce que je prêche en anglais la plupart du temps. Donc, et nous parlons anglais tous les jours, donc il faut que je me réhabitue. On est arrivé hier soir, donc soyez patients. S'il y a des mots que je ne prononce pas bien, vous pourrez venir me taper à la fin du culte, il n'y a pas de souci. Ou parler à ma femme si vous voulez. Donc je m'appelle Sébastien, ou Seb pour vous. Et ma femme c'est Jessica, ou Jess, c'est pour ça que nous sommes connus, Seb et Jess. Brandt, nous avons trois enfants. Oui, ça commence bien. Trois enfants, Charline qui a 14 ans, Amy qui a 10 ans et Julien qui a 4 ans. Nous vivons en Écosse depuis 3 ans. Nous avons été mariés dans cette église il y a 17 ans et nous avons grandi spirituellement dans cette église. Et donc si vous ne nous connaissez pas, c'est pas bien. Il faut venir nous parler à la fin du culte. Et donc il y a 3 ans, on est parti en Écosse pour faire... à la base, une année d'école biblique et j'en suis à ma troisième. Ma femme a arrêté l'année dernière, non pas qu'elle n'avait pas les capacités, bien au contraire, mais parce que pour une question de famille, c'était quand même plus simple pour nous. Et donc, nous sommes en Écosse, dans une ville qui s'appelle Motherwell, le puits de la mer, si vous voulez la traduction. Et donc, nous sommes dans la mission GLO, GLO. Nous sommes missionnaires GLO depuis maintenant un an. Et nous sommes donc investis dans le collège biblique de GLO qui s'appelle Teasley College. Jess s'occupe de la promotion de la mission GLO et de ses activités, ainsi que la traduction, principalement le français, vous en doutez bien, mais aussi de temps en temps l'italien, puisque Jess est italienne. Enfin, française, mais bref, vous m'avez compris. Demandez à Jean. Jean, c'est mon beau-père, Jean Canistraro. Maintenant, je suis grillé. Pendant 15 jours, je vais avoir du mal. Elle est plus particulièrement en relation avec les missionnaires GLO français et italiens. Pour ma part, j'enseigne et je suis aussi enseignant au collège biblique maintenant. Et nous avons tous les deux un rôle de pasteur, si vous voulez, avec les étudiants, première année en particulier parce qu'ils sont là toute l'année, et deuxième et troisième année quand ils reviennent sur site. Et quand je dis nous, c'est pas que Jess et moi, c'est les enfants, c'est toute la famille. On passe du temps avec les étudiants pour prendre soin d'eux et de temps en temps, eux, prendre soin de nous. Si vous voulez de nos nouvelles, vous allez voir ma femme et vous demandez la newsletter ou alors vous donnez votre email et la prochaine newsletter, vous l'aurez. Comme ça, vous aurez toutes nos nouvelles. Mais il y a une nouvelle dont on est vraiment fiers et contents de partager avec vous et de le faire publiquement ce matin. C'est que notre fille, Charline, et maintenant elle est toute rouge, a demandé à se faire baptiser il y a plusieurs mois de ça. Et elle se fera baptiser au mois de juin, le 8 juin prochain, en Écosse. Et c'est un sujet de reconnaissance pour nous, de reconnaissance parce que nous ne méritions rien. Et le Seigneur a vraiment travaillé dans son cœur, vraiment travaillé dans sa vie. Et pour elle, c'est le début d'une nouvelle aventure, une nouvelle aventure avec le Seigneur. Et nous voulons l'encourager, prier pour elle, pour qu'elle vraiment se forge son caractère de jeune chrétienne avec le Seigneur et qu'elle puisse vraiment grandir dans la foi et qu'elle puisse aussi partager l'Évangile autour d'elle. On a deux petites annonces à faire obligatoirement. Je travaille pour Teasley College, donc le collège biblique. Je vous ai ramené des tracts qui sont en anglais, parce que si vous voulez faire Teasley College, il faut parler anglais et écossais. Enfin bref, vous comprendrez si vous venez un jour en Écosse. Ou demandez à Scott qui vous parle ou à mes filles. Donc vous avez le programme, vous avez une belle photo de nous aussi au milieu. Et je vous ai ramené ce petit dépliant qui parle de mission. Parce qu'on s'occupe avec Jess aussi de tout ce qui est courte mission d'été avec GLO. Et cet été, par exemple, nous partons une semaine en Sicile, dans l'église de Giuseppe, que vous connaissez pour la plupart, je pense, ou les anciens de l'église. Et ensuite, nous allons dans le sud de l'Italie, passer 15 jours dans une autre équipe. Et ensuite, nous revenons ici pour faire un camp au camp des Cimes avec les enfants. Donc voilà, ça c'est nous. C'était les nouvelles des Brandt. Très court, je suis perturbé parce que... Ça a changé de côté, maintenant il faut que je me réhabitue. Mais Jean-Marc, tu m'envoies un texto, j'ai pas mon téléphone, c'est pas grave. Quand je suis trop long, hein, tu me bipes. Depuis 3 ans maintenant, je passe la plupart de mes vendredis soirs avec des jeunes dans une église. Ces jeunes ne sont pas du tout chrétiens. Ils viennent dans cette église parce que pour eux, c'est un local où ils peuvent se défouler, où ils peuvent certaines fois casser des choses, mais aussi parler avec des chrétiens et nous utiliser comme des punching balls. Verbalement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils ne nous tapent pas. Et ils posent des questions sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus, et en particulier Jésus. Et depuis 15 jours, 3 semaines, vous vous tenez bien qu'on on parle de cette Pâque qui arrive, et on essaie de leur faire comprendre que non, ce n'est pas le lapin qui a fait rouler une pierre et que les œufs sont venus et que maintenant il y a des œufs en chocolat de partout, ce qui est très fort dans un pays anglophone. On essaie de leur expliquer ce que c'est que la Pâque. Et là, il y a de la polémique qui arrive, et fortement, parce que ces jeunes ne sont pas chrétiens, viennent de milieux difficiles, défavorisés. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, et je me suis renseigné, 40% des jeunes britanniques ne croient pas, accrochez-vous bien, ne croient pas que Jésus ait existé. Je ne vous parle même pas de la mort, de la résurrection, 40% des jeunes britanniques, 15-25 ans, ne croient pas que Jésus ait été un homme, qu'il ait marché sur cette terre. Pour eux, c'est tout du bidon. Et j'ai discuté avec eux longuement, sur plusieurs vendredis, et ça devient compliqué quand vous parlez de la Pâque, du coup. Parce que la mort d'un homme qui n'a pas existé, la résurrection d'un homme qui n'a pas existé, ça devient compliqué. Et surtout quand ces jeunes croient tout et n'importe quoi. Et j'ai fait des recherches pour parler, répondre à ces jeunes. Je suis allé sur Internet, vous pouvez y aller si vous voulez, et vous tapez « Jésus n'a jamais existé ». Et vous allez tomber sur un certain nombre de sites Internet, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont complètement... je ne vais pas utiliser le mot que je voudrais utiliser, mais... stupide. Et je voudrais utiliser un mot bien plus fort que ça. Parce que ces jeunes, par exemple, m'ont dit « Non, Jésus n'a jamais existé ». D'ailleurs, on le sait, parce que des archéologues ont découvert que Nazareth n'a jamais existé. Et vu qu'on sait que Jésus est né à Nazareth, et ben Jésus n'a jamais existé. C'est simple, non? C'est les chrétiens qui ont tout inventé. Et ils étaient très, très, très fiers d'eux. Hein, jusqu'au moment où je leur dise que Jésus n'était pas né à Nazareth, mais à Bethléem. Là, ça devient compliqué, quand même. Et en fait, en les écoutant me dire avec toute leur arrogance, « Mais non, ça n'existe pas, tout ça, c'est du bidon, etc. », je pensais à ce verset dans Luc 18, verset 8, où Jésus nous dit « Mais quand le Fils de l'homme, Jésus, viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Et ce qui est désarmant, c'est de voir que ça ne change pas de l'époque de Jésus où les chefs religieux l'ont rejeté, ne l'ont pas accepté, à aujourd'hui où vous pouvez passer à côté de la majorité des gens dans Grenoble ou dans la ville où on habite et tout le monde se fout de savoir que Jésus soit venu sur terre. Ça n'a pas d'importance pour eux, ce n'est pas essentiel dans leur vie. Et ce que je veux vous partager ce matin, c'est que oui, on peut pas changer leur attitude de cœur. C'est pas notre rôle de toute façon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est proclamer la vérité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est leur donner les bons éléments en main, les bonnes cartes en main, pour qu'ils décident. Nous devons proclamer cette vérité de la Pâque. Et j'ai pensé en fait à cette prédication plus sous un ton apologétique, de défense de la foi. Pas vraiment comme un sermon, mais j'aimerais qu'on prenne conscience de ça, que le monde qui est en dehors de ces murs ne croit même plus, pour la plupart, que Jésus ait existé. C'est à nous de leur dire. C'est à nous d'aller dehors et de leur dire, les gars, vous avez tort. Principalement parce que la Bible nous enseigne ça, et pour d'autres raisons aussi. La Pâque, c'est un plan infaillible. La Pâque, c'est un plan qui débute dans la Genèse. La Pâque, c'est un plan que Dieu a voulu. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Et quand je parle de la croix, j'inclus la vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'est toute l'œuvre de Jésus qui fait partie du plan infaillible de Dieu pour nous sauver. Genèse 3,15, le premier livre de la Bible, juste après ce qu'on appelle communément la chute, lorsque l'homme décide de ne pas se préoccuper de Dieu, mais juste de sa petite personne, lorsque l'homme décide d'être son propre Dieu, ce qu'on appelle, nous, chrétiens, le péché, rejeter complètement Dieu. Dieu s'adresse à Satan, celui qui a immiscé cette pensée dans l'homme. Ce n'est pas lui qui a péché, c'est l'homme qui a péché. Mais Dieu s'adresse à Satan et lui dit « Ta défaite est prochaine. La descendance d'Ève t'écrasera, te vaincra. Cette défaite te sera infligée par cet homme. Et cet homme... c'est Jésus, Jésus-Christ, 100% humain et 100% Dieu, Dieu incarné. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sacrifice ? Je ne sais pas si vous avez remarqué tous les chants qu'on a chantés, quand on pense à la Pâque ou à la Sainte Cène, on parle beaucoup du sang. Et on reviendra sur cette question du sang. Et d'ores et déjà, je vous demande d'oublier l'image glauque peut-être qu'on peut avoir du sang. Et à la place, pensez à la vie. Le sang qui coule dans vos veines, c'est ce qui vous donne la vie. Donc quand je prononcerai le mot sang, pensez à la vie. Pourquoi on a besoin d'un sacrifice ? Pourquoi on a besoin de d'ôter la vie ? L'équation de Dieu, elle est simple. Dieu est saint. Il est parfait. Et quand l'homme a décidé de se séparer de lui, de ne pas regarder à lui, il est devenu imparfait. Et Dieu, il est juste aussi. Et il faut qu'il nous aide à rééquilibrer ce problème. Et ce rééquilibrage est juste possible avec le sang. Le sang qui nous protège de la juste colère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu ne peut pas supporter que sa créature, que l'homme, ne le regarde pas, se détourne de lui. Et à cause de cela, Dieu veut la justice. Et la justice, c'est la mort. On a chanté, tout ce que je vous dis là, il n'y a rien de nouveau. C'est ce qu'on a chanté ou lu depuis ce matin. C'est le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Et cette histoire de sang qui revient encore et encore et encore, dès le départ de la Genèse, vous le retrouvez dans la loi, dans ce livre que vous aimez vraiment tous en tant que chrétiens, Lévitique. Lévitique chapitre 17, verset 11, un verset qui cette année m'a particulièrement parlé, m'a particulièrement touché, parce que je suis comme vous, Lévitique, c'était un livre que j'appréhende ou que j'appréhendais un petit peu. Et dans ce verset 11, Dieu nous dit « Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, Dieu, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel, l'endroit où vous sacrifiez les animaux, le rite d'expiation pour vos vies. » L'échange, si vous voulez, entre vous, pécheurs qui méritiez la mort, et moi qui vous donne des animaux, le sang, la vie que vous échangiez. Comme ça, vous n'êtes plus coupable. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. La lettre aux Hébreux y fait référence, on saute de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, comme quoi c'est une ligne directrice qui ne change pas, un plan infaillible. La lettre aux Hébreux continue à parler de ça en nous disant, en fait, selon la loi, Hébreux 9, 22, presque tout est purifié avec du sang. Vous voyez, purifié, le contexte de sainteté, on se retrouve ici. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Le sang est donc la monnaie d'échange de Dieu. On ne paye pas Dieu, pas avec de l'argent. Par contre, si vous lui donnez du sang, vous êtes pardonné. Dans l'Ancien Testament, ce schéma n'était pas parfait. Parce que continuellement, les hommes venaient au temple sacrifier des animaux pour continuellement demander pardon, parce que continuellement, l'homme n'est pas parfait. Et ça, ça existe jusqu'à Christ, jusqu'à Jésus. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je viens de vous le dire à demi-mot, mais dans tout l'Ancien Testament, les prophètes ont continué à parler de ce plan infaillible. Vous avez ce qu'on appelle des prophéties, ce que Dieu a donné à des hommes et qui va s'accomplir plus tard. Des prophéties concernant Jésus-Christ, concernant sa mort et sa résurrection. J'en ai noté 7 qui se trouvent dans l'Ancien Testament et qui sont accomplies dans le Nouveau Testament. Rejeté des siens, silencieux devant ses accusateurs, cloué sur le bois, aucun de ses os n'a été brisé, mort comme sacrifice pour nos péchés, enseveli dans la tombe d'un homme riche et ressuscité. Tout ça se trouve dans l'Ancien Testament et a été accompli dans le Nouveau Testament. Et devinez qui a accompli toutes ces prophéties ? Un seul homme, un seul et unique homme, Jésus-Christ. Jésus lui-même nous dit qu'il a achevé ce plan. Et j'ai eu un petit peu peur quand Jean-Marc a commencé à lire Luc 24, puisque je retourne dans Luc 24, mais je suis un petit peu plus loin. Je ne suis plus dans le chemin sur Emmaüs avec les disciples. Je suis quand Jésus est en train de parler avec ses disciples, verset 44. Et Jésus leur dit... « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et qui me concerne devait s'accomplir. Et ça s'est accompli avec moi, Jésus. » Et là-dessus, verset 45, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, le Messie, l'envoyé, le choisi de Dieu. » doit souffrir, comprenez par là la mort, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part, et c'est là où c'est intéressant pour nous aujourd'hui, qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Proclamer la mort et la résurrection de Jésus pour que nous changions pour obtenir le pardon des péchés. Ce plan a été conçu par Dieu depuis le début, confirmé pendant des centaines d'années par ses prophètes et finalement réalisé par le Messie, par Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu. La Pâque, c'est la mise en œuvre de ce plan parfait, voulu et orchestré par Dieu. Alors que, comme certains d'entre vous ont prié ce matin, nous ne méritions rien. Et je sais que là, je suis en train de parler peut-être un peu trop terre-à-terre, mais c'est une grâce magnifique. C'est une espérance insondable que d'avoir la Pâque offerte pour nous, que d'avoir Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Et c'est mon deuxième point. La Pâque, c'est une réalité. Jean-Marc l'a dit, et c'est génial que le Saint-Esprit nous ait guidés comme ça, puisqu'il nous dit que oui, c'est pas une blague. C'est exactement mon deuxième point. C'est une réalité. La mort et la résurrection. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous dites « Oui, mais ça, on sait, Seb, on est chrétien. » Mais croyez-moi, dès que vous passez les murs de cette église, la mort et la résurrection, c'est les débats qui font rage. Des débats qui font rage, principalement la mort. Pourquoi ? Si vous arrivez à prouver que Jésus n'ait jamais été tué, ben vous n'avez pas besoin de prouver qu'il est ressuscité. S'il n'est pas mort, pas de résurrection. Bon, si vous n'arrivez pas à prouver qu'il n'a pas été mort, vous vous attaquerez à la résurrection. Parce que la résurrection fait appel au miracle. Et c'est compliqué pour nous de comprendre le miracle. Jésus est-il vraiment mort ? Certains pensent qu'il a feinté sa mort, aidé par ses disciples. Un peu comme un film d'espionnage. Ils ont donné une drogue, il n'est pas vraiment mort. Et du coup, après, quand ils l'ont décroché, il a pu s'enfuir avec ses disciples. Les musulmans disent que ce n'était pas lui sur la croix. Il a échangé sa place avec quelqu'un, juste avant d'être crucifié. Ou encore, les Romains, et excusez le terme, l'ont décroché trop tôt. Il n'était pas vraiment mort. En dépit de ces suggestions, j'aimerais qu'on soit très clair, vous et moi, ce matin. La vérité, c'est que Jésus est bel et bien mort sur cette croix. Il est bel et bien mort. Et une des raisons principales que je vais défendre maintenant, c'est parce que c'était la raison de sa venue sur terre. Donc, le sens commun juste me parle et me dit, ce n'est pas possible que Jésus n'ait pas voulu mourir sur la croix, parce que c'est pour ça qu'il est venu sur terre. Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'a aucun intérêt à feinter sa mort, parce que tout ce qu'il a proclamé jusqu'alors n'aurait pas de sens. Il est venu pour ça. » Matthieu 20, j'ai prêché sur Matthieu 20 il y a 2 semaines. Matthieu 20, cette rencontre un petit peu particulière entre Jésus et la maman de 2 de ses disciples, nous dit Matthieu. Cette mère demande à Jésus, « Quand tu seras roi, place un de mes fils à ta droite et l'autre de mes fils à ta gauche. Enfin, » vous m'avez compris, choisissez votre droite et votre gauche. « En gros, donne-leur une place d'honneur quand tu seras roi. » Et Jésus, du tac au tac, va répondre une seule question. « Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire ?» La coupe, un terme qui, vous et moi, ça ne nous parle pas plus que ça. Même des fois en tant que chrétien, une coupe, c'est un récipient dans lequel nous mettons du liquide. Pour un juif, quand vous dites la coupe, surtout lors de la Pâque, ça tilte tout de suite là-haut. Parce que pour lui, la coupe, c'est la signification de la juste colère de Dieu. C'est ce que Dieu a utilisé comme image lors de la première Pâque, lorsque vous vous rappelez, les Juifs étaient opprimés par les Égyptiens, le peuple d'Israël opprimé par les Égyptiens, que Dieu arrive avec Moïse et qu'après les 10 plaies, la 10e plaie, Dieu dit « Je vais envoyer un ange qui va tuer tous les premiers-nés, comme ça les Égyptiens vont comprendre qui je suis. C'est moi Dieu, ils doivent aussi m'obéir. » Et Dieu dit « Mais pour vous protéger, vous prenez ce sang et vous mettez ce sang sur vos linteaux, le sang d'un agneau le plus parfait que vous pourrez trouver, et ce sang vous protégera de la mort. » Exactement ce qui se passe à la croix pour nous. Ce sang de Jésus nous protège de la juste colère de Dieu à l'encontre de notre péché. Vous pouvez retrouver ça dans l'Ancien Testament. Si vous voulez les textes, je peux vous les donner. Toujours dans cette idée de la coupe, Jésus lui-même va prier une prière intéressante. dans le jardin de Gethsémané, Matthieu 26, verset 39, « Ô Père, s'adressant à Dieu, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, si les choses se passent, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » À la lumière de ces textes, il me paraît insensé de croire que Jésus ne soit pas mort. Parce qu'il est venu pour ça. Il savait exactement pourquoi il était là et il savait qu'il devait accomplir ce sacrifice. Le deuxième élément qui fait débat pour la Pâque, et je pense que vous l'aurez compris, c'est la résurrection. Et là, ça devient un peu plus tendu. Croire que Jésus soit mort, c'est pas trop un problème. Je vous ai donné deux autres éléments concernant le fait que les Romains l'aient décroché trop tôt, etc. Je ne m'attarde pas là-dessus ce matin, parce que je crois que vous avez déjà eu un enseignement, enfin je m'en souviens en tout cas. Croire que les Romains aient mal fait leur travail, c'est juste d'une bêtise incommensurable. Les Romains savaient tuer, sans aucun problème. S'il y a bien une chose que vous ne pouvez pas remettre en question, c'est que les Romains ne soient pas capables de tuer. J'ai lu dans certains textes historiques que des fois, les crucifixions, c'était par centaines. Donc croyez-moi, quand ils mettaient un homme, ils clouaient un homme sur une croix, ils savaient le tuer. Et je voulais donner une image pour vous aider à comprendre, mais la seule personne pour qui je voulais donner l'image n'est pas là. Donc John, si tu écoutes ce message, cette image est pour toi. C'est comme expliquer à John, qui depuis que je le connais, adore le GIGN, que le GIGN intervient, oui, ça vous fait, que le GIGN intervient lors d'une prise d'otage dans le mauvais appartement. Et qui repart bredouille, il se dit, bah non les gars, il n'y a personne, on s'en va. Ça paraît inconcevable. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entraînés pour ça. Ils sont entraînés pour cerner les situations, ils ont du renseignement. Et bah, les Romains, pour tuer, c'est exactement la même chose. Ne remettez jamais en question le fait qu'un Romain, à l'époque bien évidemment, savait tuer parce que c'était le cas. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, à chaque fois qu'il annonce sa mort, annonce sa résurrection. Et je trouve ça étonnant parce que quand vous retournez dans les évangiles, les quatre, que vous regardez quand Jésus annonce à ses disciples « Je vais mourir et je vais ressusciter », la plupart du temps, ils réagissent au premier terme. « Ah bon, tu vas mourir ? Non, c'est pas possible. Rappelez-vous, Pierre. Non, c'est pas possible, ça t'arrivera jamais. » Mais je suis surpris de voir que personne réagit sur le fait qu'il dit « Je vais ressusciter ». Enfin, je veux dire, entre mourir et ressusciter, ce qui est plus compliqué à croire, c'est quand même ressusciter, pas mourir. Il n'y a personne qui pose des questions. Enfin, il y en a qui s'en sont souvenus. Lorsque Dieu, en la personne de Jésus, est crucifié, mort, les chefs religieux vont voir Pilate. Et ils vont lui dire ça, dans Matthieu 27, versets 62 à 64. « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé. » jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts », parce que cette dernière imposture serait pire que la première. La première imposture était de dire qu'il était le Fils de Dieu. Par conséquent, la résurrection devient une réalité. Pourquoi, encore une fois, si vous gardez un tombeau avec des militaires romains et que le corps est dans le tombeau lorsque vous mettez les militaires et que 3 jours après le corps n'est plus dans le tombeau, et que le vol n'est pas possible à cause de ces militaires, la seule explication logique, presque mathématique que vous avez devant vous, c'est que le corps a disparu, ou alors que cet homme est ressuscité. Et ce qui nous aide à comprendre la résurrection de Jésus, ce qui est le plus frappant quand on pense à la résurrection, c'est les témoins. Jean-Marc y a fait allusion en introduction, les témoins, par centaines, ont vu Jésus-Christ manger avec lui, marcher avec lui, discuter avec lui, ils l'ont touché. Et ce qui est important pour nous, c'est ce texte dans 1 Corinthiens 15. Paul relate 1 Corinthiens 15, versets 3 et 8, je vous lis. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » On revient sur notre plan infaillible. « Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » On est toujours dans cette idée que Dieu avait bien prévu ça, qu'il est apparu à Céphas ou Pierre, selon vos traductions, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Le verset, vous aurez compris, qui va nous intéresser ce matin, c'est « Il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, et ils sont encore pour la plupart vivants. » Quand Paul écrit cette lettre, une vingtaine d'années après la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection, il offre à ses lecteurs la possibilité d'aller checker. Vous ne me croyez pas ? Vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité ? La plupart sont encore vivants. Allez-y, allez poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que c'est important que nous soyons sûrs de la résurrection de Jésus ? C'est important parce que la résurrection, c'est le fondement de notre espoir. Un frère ou une sœur, je ne me rappelle plus, a déjà lu ce texte ce matin. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi aussi est vaine. S'il n'y a pas la résurrection, il n'y a pas de sacrifice parfait. Vous vous rappelez de l'histoire du sang. Pas de sacrifice parfait, pas de pardon des péchés. Pas de pardon des péchés, nous sommes toujours sous la condamnation de Dieu. La juste condamnation de Dieu. La venue de Jésus sur terre n'a aucun sens. Pourquoi Dieu se serait incarné ? Pourquoi ? Mourir sur une croix ? Sans la résurrection ? Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Nos églises sont fondées sur le sable. Pourquoi vous êtes là ce matin ? En quoi vous mettez votre espoir si le Dieu auquel vous croyez est mort, enterré ? Aucun sens. Notre espérance n'est qu'une illusion. Laissez-moi vous dire que si la résurrection n'était pas vraie, n'était pas une réalité, le christianisme serait mort depuis des centaines et des centaines d'années. Nous ne serions pas là ce matin, parce que notre foi n'aurait aucun sens. Et un chef religieux de l'époque de Jésus avait compris ça, ou en tout cas avait commencé à réfléchir à ce que ça pouvait dire, de vraiment croire à cette résurrection. Dans Actes chapitre 5, versets 34-39, un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, la place où ils officiaient, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, vous vous rappelez de cette histoire, mais lorsque Jésus est ressuscité, il est revenu, il a enseigné ses apôtres, ses disciples, et ensuite il est reparti auprès du Père, leur a envoyé le Saint-Esprit, et dès que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, c'est un truc de dingue, ils partent et ils évangélisent. Et leur message principal, c'est de dire... Vous vous rappelez de Jésus ? Vous vous rappelez de ce gars qui est mort sur la croix, qui disait être le Fils de Dieu ? Eh bien, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai ? Parce qu'il est ressuscité. Et ils se font arrêter parce que, de nouveau, les chefs religieux ne sont pas contents de cette vérité proclamée. Et ils sont en train de débattre de ce qu'ils vont faire d'eux. Les arrêter, pas les arrêter. Donc, ils sont en train de débattre. Et cet homme, Gamaliel, dit « Ok, faites-les sortir et écoutez ce que j'ai à vous dire. » Verset 35. « Homme israélite, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » les disciples ou apôtres, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Et c'est ça qui est important pour nous. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Regardez la fin du verset 39. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ça veut dire que si on est là ce matin, la plupart d'entre nous chrétiens, et qu'on se lève pour le Seigneur en disant « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, qu'il a payé pour mes fautes, et je le suis parce que c'est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. » Si vous avouez, vous dites ça ce matin, ça veut dire que vous êtes en train de prouver ce que cet homme commence à comprendre. La résurrection a du sens. La résurrection est une réalité. Vous êtes les témoins du fait que la résurrection soit une réalité. Parce que l'entreprise de l'Église où l'œuvre de l'Église ne s'est pas détruite. Vous êtes là ce matin. Amen. Notre témoignage parle de lui-même. C.S. Lewis a dit, « Si faux, le christianisme est sans importance. » Peu importe. Si c'est faux, on s'en fiche. On n'a pas besoin de s'y intéresser. « Si vrai, le christianisme est d'une importance infinie. » La seule chose qu'il ne peut pas être, Et c'est ce que nous devons dire au monde qui nous entoure. La seule chose que le christianisme ne peut pas être, c'est relativement important. Soit vrai, soit faux. L'événement de la croix, la mort et la résurrection nous poussent obligatoirement à se poser cette question. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que Jésus a dit vrai ? Parce que si c'est le cas, l'humanité a changé. Parce que si c'est le cas, ce qu'a annoncé Jésus-Christ doit être proclamé. Si c'est le cas, c'est un message très, très important. Et je pensais à la Pâque et je me disais, c'est bizarre parce que la Pâque, on regarde toujours à l'arrière. On regarde toujours à cette première Pâque des Juifs, ensuite à la loi, ensuite à Jésus-Christ, la croix, la résurrection, l'Église primitive, etc. Et on vient jusqu'à nous, mais de l'arrière jusqu'à nous. Et en fait, il y a quelque chose qui a tilté quand j'étudiais tous ces textes, me dire qu'en réalité, la Pâque, c'est les yeux fixés vers l'avenir. On vient de prendre le pain et le vin, qui en grande partie parlent de la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi et la résurrection de Jésus-Christ ? Le verset que je voulais citer aussi et que Jean-Marc a cité, qui nous dit, 1 Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ça veut dire qu'on n'annonce pas simplement sa mort, on annonce aussi sa résurrection. Parce qu'un homme mort ne peut pas revenir, il est nécessairement ressuscité. Si nous proclamons cette vérité, c'est qu'en réalité, nous vivons la Pâque chaque jour. Et c'est là où ça devenait compliqué dans ma tête, parce que pour moi, enfin, je suis exactement comme vous, Noël, c'est Noël, décembre, et la Pâque, c'est au mois d'avril, et puis voilà. Le reste du temps, on est chrétien, et puis on n'y pense pas plus que ça. Et en fait, mon challenge pour vous ce matin, c'est de vous dire, la Pâque, ça se vit tous les jours. Jésus mort et ressuscité pour mes péchés, c'est quelque chose dont je dois avoir conscience chaque jour, à chaque instant. Et ayant conscience de ça, je dois le proclamer haut et fort pour éviter que ces jeunes que je connais, justement, ne croient en tout et n'importe quoi, à des stupidités qu'ils vont trouver sur Internet. C'est notre boulot. Marc 13 nous dit ça. Marc 13, Jésus qui répond à ses disciples. Tu vois ce bâtiment, Jésus, magnifique, ces pierres magnifiques. Et Jésus leur dit, oui, c'est très bien, mais il y a des choses qui vont arriver. Tout ça sera détruit. En fait, le monde va être détruit. Ma parole, elle, sera toujours là. Et en fait, vous qui me croyez en moi, vous avez un boulot à faire. Vous avez quelque chose à faire. Vous êtes en charge d'annoncer cet évangile. Et vous êtes en charge d'annoncer cet évangile jusqu'à ce que je revienne. Et puisque Jésus connaissait bien ses disciples et nous connaît bien aussi, il va donner une parabole à la fin de Marc 13. C'est l'histoire d'un homme qui part en voyage et qui met ses hommes en charge de son royaume, de sa ville, de ce que vous voulez, j'ai le verset en anglais dans la tête, qui met en charge ces hommes-là de ses richesses, de son royaume. Et quand il revient, il veut que son royaume ait été pris en charge correctement. Et ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que vous et moi, on est en charge de proclamer cette vérité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la Pâque, c'est un plan infaillible, c'est une réalité, et la Pâque, c'est les yeux fixés vers l'avenir. Amen. Je vais juste prier, si Jean-Marc, ouais. Seigneur, c'est avec une joie et une grâce infaillible, Seigneur, que nous nous approchons de toi, parce que tu es effectivement mort et ressuscité sur cette croix, payé nos fautes, tu as payé nos fautes sur cette croix, Seigneur, et voulons te remercier pour cette grâce infinie, te remercier parce que maintenant, nous, les chrétiens, sommes en charge de proclamer cette vérité. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes dignes de quoi que ce soit, mais nous le faisons parce que tu habites en nous, Seigneur, par ton esprit. Tu nous donnes la force de proclamer cette vérité. Et nous voulons prendre conscience, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, que nous devons annoncer ta mort et ta résurrection pour que les gens comprennent que Dieu s'est fait homme et qu'il a réconcilié l'humanité entière avec Dieu, créateur de toutes choses. Amen.